Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous allons maintenant écouter deux textes de lecture biblique avant la prédication. Donc le premier sera dans le psaume 22, donc psaume 22, les versets 7 et 8. Et puis ensuite, nous irons dans l'évangile selon Marc, au chapitre 15, et nous entendrons les versets 16 à 32. Alors nous commençons dans le livre des psaumes, au chapitre 22.
Et moi, je suis un ver et non un homme. Le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Puis, la lecture du texte de la prédication dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, versets 16 à 32. Les soldats amenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et appelèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines tressée. Puis, ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire un vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquait le motif de sa condamnation, portait ces mots, « le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Eh, toi qui détruis le temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de ta croix. » Les principaux sacrificateurs, aussi avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyons et que nous croyons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Jusqu'ici, notre lecture.
La honte fait détourner le regard et même se cacher. J'ai trop honte. Impossible de s'épanouir dans la honte, qui est comme un frein puissant tiré alors qu'on aimerait avancer. Eh bien, sans le Saint-Esprit, c'est comme si nous avions un puissant frein à main dans la compréhension de la Bible. Voilà pourquoi nous comptons sur lui pour l'enlever et avancer dans la transformation que la parole de Dieu va opérer et appliquer dans nos vies. Nous comptons donc sur l'œuvre de l'Esprit ce matin. Nous continuons à étudier l'Évangile selon Marc et nous arrivons aujourd'hui à un moment fondamental de l'histoire du monde. La crucifixion de Jésus. L'évangile est un mot qui veut dire bonne nouvelle, yes, good news, bonne nouvelle, c'est ça. Mais de quelle bonne nouvelle s'agit-il? Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle en fait? Une bonne nouvelle, c'est quelque chose de positif, d'encourageant, non? Qui amène de la joie. Comment voir la crucifixion et tout ce que Jésus a subi comme une bonne nouvelle? Je pense que ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Donc un premier élément qu'on va déjà retenir, c'est que c'est par la foi que nous saisissons la signification de la croix et que nous allons pouvoir voir une bonne nouvelle. Et je prie qu'aujourd'hui, chacun ici présent reçoive une compréhension plus profonde de ce moment clé de l'œuvre de Christ. Alors, on va aborder ce passage biblique avec un premier point d'introduction que j'intitulerai simplement « Sur quelle souffrance l'Évangile ne s'attarde-t-il pas ?» Sur quelle souffrance l'Évangile ne s'attarde-t-il pas ? Ensuite, nous aurons une méditation sur le texte lui-même, que j'intitule « Les causes de souffrance décrites ». Et nous terminerons par une réflexion qui, je prie, nous encouragera, qui est intitulée « Les résultats de la souffrance de Jésus ». Alors, premièrement, sur quelle souffrance l'Évangile ne s'attarde-t-il pas ? Jésus a averti ses disciples, hein, on connaît un petit peu l'Évangile, on a déjà parcouru cet Évangile de Marc. Dans Marc 8, il dit à ses disciples que le Fils de l'homme allait beaucoup souffrir. Vous pouvez regarder dans Marc 8, verset 31. « Il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. » Il existe des souffrances physiques et des souffrances mentales. Alors, est-ce qu'on a déjà fait attention à la manière dont l'Évangile décrit les souffrances de Jésus ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptions d'actes brutaux, c'est vrai, qui provoquent des douleurs. On parle de gifles, de crachats, de coups de poing, de coups de verge, de clous enfoncés, mais... qu'en est-il de la souffrance physique elle-même ? Les douleurs physiques que Jésus a ressenties ou vécues ne sont en fait pas décrites ou peu détaillées. Vous ne trouverez pas des phrases telles que « les tortures subies furent atroces »,« le sang coulait »,« le corps tremblait »,« Jésus haletait de douleur »,« la peau était à vif à chaque contact, même avec la poussière », et agissait-elle des épines acérées, ne permettant quasiment pas de retenir des cris aigus de douleur intense. Non, ce genre de description est plutôt celui de notre culture, qui met en scène ce qui est horrible, qui veut choquer et surtout faire prendre en pitié ou alors exciter la haine. Mais rien de tout cela lorsqu'il est parlé des souffrances de Jésus. Le Saint-Esprit, auteur divin du texte biblique, ne veut ni susciter la pitié du supplicié, ni susciter la haine des bourreaux. Il ne veut ni susciter la peine du supplicié, ni susciter la haine des bourreaux. Les douleurs et l'horreur ne sont pas cachées, parce que les descriptions factuelles de ce qui arrive, nous permet de comprendre que Jésus a profondément été touché dans son corps. Et chacun de nous pourra même le ressentir selon ses capacités, son expérience et ses besoins. Par contre, l'évangile de Marc, et les autres d'ailleurs aussi, que l'on peut aussi lire, veulent d'abord nous faire réfléchir avant nous faire ressentir. Il ne veut pas nous manipuler par la pitié qu'il pourrait stimuler ou une émotion suscitée par une mise en scène, comme nous en voyons tellement aujourd'hui, même jusque dans des films qui disent parler du Jésus de la Bible. La souffrance physique de Jésus va nous amener à une grande émotion, c'est vrai. Mais c'est lorsque nous comprenons cela, ce qu'il a vécu, en lien avec notre proximité avec lui. C'est notre relation avec lui qui va nous amener dans ces émotions. Ce n'est pas la description elle-même qui suscite en fait ces émotions. C'est notre relation que nous avons avec lui. Et lorsque nous entendons ce dont il est question de Christ, plus vous l'aimez et plus vous serez touchés. Tous ceux qui souffrent physiquement en fait peuvent s'identifier à Jésus, même s'il n'y a pas toutes ces descriptions. Parce que ce n'est pas la clé de l'identification, ce n'est pas la description de ses souffrances. Alors j'espère qu'on comprend maintenant quand même un petit peu mieux que les souffrances physiques, bien réelles et atroces, ne sont pas le sujet principal de la réflexion de ceux qui nous rapportent les faits historiques de manière infaillible dans les évangiles. Qu'en est-il alors de la souffrance émotionnelle, si à la mode actuellement ? Là encore, nous restons sur notre faim, si c'est quelque chose que nous cherchons. Parce que dès son arrestation, vous ne trouverez pas de phrase telle que « Jésus s'est senti vulnérable ». Il a ressenti le rejet, ayant l'impression qu'il était la décharge du monde. Il a exprimé son désespoir et son anxiété à ses proches. Vous ne trouverez pas ce genre de phrase dans le texte. Alors oui, il y a une situation avant, dans le jardin de Gethsémané, c'est juste. Avant le procès, avant la crucifixion, où nous avons Jésus qui plaide avec son Père, même jusqu'à la sueur du sang, nous dit Luc. Et nous avons là quelques éléments de souffrance émotionnelle, la frayeur, l'angoisse, la tristesse. C'est vrai. Mais dès l'arrestation, nous n'avons plus rien qui nous est décrit. Les émotions faisaient partie de la vie de Jésus. Il était humain comme vous et moi. Et son attitude dans le jardin de Gethsémani ou même devant la tombe de Lazare nous permet de le comprendre. Mais lorsque Jésus est dans les moments les plus cruciaux de ses souffrances à la croix, plus rien n'est dit. Et cela permet en fait un spectre très très large de personnes dans des situations difficiles de s'identifier à ce que Jésus a vécu. Parce qu'on ne peut pas dire « j'ai pas vécu exactement ce qui est écrit », ce n'est pas écrit. Il nous permet de s'identifier à lui, tout en étant attentif aux indices bibliques qui nous sont donnés. En fait, le texte biblique est très sobre dans la description. Et s'il peut être utile de comprendre ce que signifient les différents outils de torture que Jésus a subis pour prendre conscience de ses souffrances, il est dangereux de les dogmatiser. Personne n'a été à la place de Jésus. Personne ne connaît sa capacité et à son corps à supporter les douleurs, sa capacité mentale à y faire face, car nous ne sommes pas égaux dans ce domaine. D'ailleurs, nous ne supportons pas tous la souffrance de la même manière. Mais Jésus avait annoncé à ses disciples que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir. Et je suis convaincu que Jésus est l'homme qui a le plus subi la souffrance de le monde. Pourquoi ? Parce que la colère de Dieu s'est déversée sur lui. La colère de Dieu qui devait tomber sur nous a été déversée sur lui. Et c'est une souffrance, on pourrait dire infinie, que Jésus a vécue. C'est la coupe que Jésus, dans sa peur, demandait à son Père d'écarter s'il était possible dans ce jardin de Gethsémané. Donc chaque personne qui passe par un temps de souffrance, un temps de souffrance physique, un temps de souffrance mentale, peut se tourner vers Jésus-Christ et se savoir compris. Et il y a deux raisons à cela. La première, c'est parce qu'il est Dieu en fait. Jésus est Dieu et absolument rien ne lui est caché. Donc dans ce sens-là, il n'y avait pas besoin d'aller à la croix pour nous comprendre. Mais la deuxième raison, c'est que dans notre souffrance, nous sommes rassurés de savoir qui l'a souffert et ce qui nous permet de nous identifier à lui. Si le texte ne parle pas en détail de comment Jésus a souffert, il décrit par contre ce qu'il a subi. Et le texte de ce matin nous parle particulièrement de ce qui provoque l'ignominie. Alors ça, c'est un mot qu'on va apprendre à connaître aujourd'hui. Comme ça, vous aurez un mot de plus dans votre vocabulaire. L'ignominie. Et c'est ce qu'on va voir dans notre deuxième point, intitulé « Les causes des souffrances décrites ». Alors tout d'abord, le terme « ignominie », ça veut dire quoi ? Alors sur les feuilles, j'ai mis la définition, comme ça vous le retrouverez. Hein. L'ignominie, c'est un déshonneur extrême causé par un outrage public. Une peine, une action infamante, nous dit le Robert. Ou bien si je vous donne quelques synonymes pour bien comprendre, hein, c'est... mais vous verrez que les synonymes, on ne les connaît pas beaucoup non plus. C'est l'abjection, la bassesse, la dégradation, le déshonneur, la honte, l'infamie, l'opprobre, la turpitude, la vilenie, l'avilissement, la déchéance, l'indignité. L'ignominie. Cette ignominie, Jésus l'a subie de la part de 4 groupes de personnes dans le texte qu'on a lu ici. 4 groupes de personnes. Et peut-être, vous les avez déjà en tête. Les 4 groupes de personnes, il y a les soldats, les passants, les principaux sacrificateurs et les scribes, et même ceux qui étaient crucifiés avec lui. On va revenir au texte biblique. Relisons donc Marc 15, verset 16. Les soldats amenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et appelèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et lui frappaient sur la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire un vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi furent accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les soldats. La moquerie, en fait, est particulièrement mordante chez les soldats romains. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement de Jésus qu'ils se moquent, mais c'est de tous les Juifs, en fait. Ils profitent de cette situation pour se moquer, en fait, de tous les Juifs. Tous les soldats sont appelés. On dit que dans une cohorte, il y a 600 soldats. Je ne sais pas si les 600 étaient là. Ça fait simplement qu'il y avait beaucoup de monde. Ils sont appelés pour venir voir le spectacle. Ils mettent un habit à Jésus qui parodiait sa royauté, tel un César avec une couronne d'épines. Et ils le saluaient, hein, comme « Ave César » ou bien « Salut, roi des Juifs ». Ils le saluaient de manière à le rendre ridicule. Ils utilisent un roseau qui représentait sûrement le sceptre du roi, hein, pour le frapper sur la tête, qui était couvert d'épines. Le mépris était tel qu'il crachait sur Jésus et plusieurs, dans un acte théâtral, pliaient le genou devant lui. Et quand ensuite il l'emmène au supplice, il méprise la faiblesse de Jésus, qui ne peut même plus porter sa croix. Alors ils arrêtent un homme pour qu'il porte la croix à la place du roi des Juifs. Arrivé au lieu du supplice, il veut lui donner une boisson qui abrutit, hein, qui souvent aussi leur permettait de mieux clouer leurs victimes, qui pouvaient se débattre. Mais Jésus refuse et pourtant se laisse faire. Jésus perd tout. Il perd tout, même les vêtements qu'il portait. Seul bien qui lui restait. Et malgré son innocence, il est placé au milieu des brigands, comme Ésaïe l'annonçait en Ésaïe 53:12. Et Pilate se moque des Juifs en indiquant la raison de sa crucifixion, qu'il est roi des Juifs, cet homme sans défense et abandonné de tous. Voilà le roi des Juifs. C'est une moquerie. si nous voyons les Romains comme ceux qui gouvernaient à l'époque, puisque c'était le cas, on pourrait dire que l'État s'est moqué de Jésus. Les forces politiques au pouvoir s'en sont moquées. Le deuxième groupe présenté dans le texte sont les passants. Regardez avec moi au verset 29. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de ta croix. » Il est 9 heures du matin. C'est pas tard dans la journée. Il est 9 heures du matin. Et toutes les personnes qui viennent à Jérusalem pour se préparer à vivre la Pâque où on va immoler l'agneau à 15 heures, passent à côté de cet homme cloué et dévêtu sur une croix. Les gens du peuple disent du mal de Jésus. Ils prennent l'accusation des faux témoins de la nuit précédente qui vient de se passer. Ils l'ont accusé de cette notion du temple qui allait être détruit. Et ils se moquent de cet homme qui ne leur a rien fait de mal. Si on pourrait dire la police de l'époque et la population qui s'était déjà levée se moquent de Jésus, il y a encore un troisième groupe, verset 31. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui devaient montrer l'exemple au peuple, qui étaient censés montrer la manière dont Dieu voulait que l'on vive, se moquent d'une personne qui n'a fait que du bien aux autres. Donc ceux qui devaient montrer l'exemple au peuple, qui étaient censés montrer la manière dont Dieu voulait que l'on vive, se moquent d'une personne qui n'a fait que du bien aux autres. Et ils disent même qu'ils croiraient en Jésus s'il descendait de la croix. Mais quel menteur! Mais quel menteur! Je vais vous le prouver. Ils n'ont pas vu Jésus descendre de la croix. Mais ils ont été les premiers informés de sa résurrection par des hommes qui n'avaient pas intérêt à mentir. C'est eux qui ont inventé l'histoire du corps volé. Parce qu'on est venu leur indiquer comment Jésus a été ressuscité par des personnes qui n'avaient pas intérêt à ce qu'il parte de la tombe. Ils avaient les détails. Donc ce qu'ils disent ici, ce n'est pas la vérité. C'est de la moquerie. Le gouvernement politique, le peuple, le gouvernement religieux se moquent de Jésus. Et comme si ce n'était pas assez, un quatrième groupe nous est présenté pour que nous comprenions que Jésus a été déshonoré par tous. Chapitre 15, la fin du verset 32. « Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. » Ceux qui, quelque part, auraient pu comprendre que le déshonneur n'était pas matière à rigoler. Ils le vivaient eux-mêmes. Ils vivaient cette honte à côté de lui. Mais eux aussi l'insultent. On pourrait dire, ils lui disaient tous les petits noms d'oiseaux qu'ils trouvaient. Ils se défoulent sur lui. Leur haine se concentre sur Jésus. Et c'est vrai, on le voit encore de nos jours, souvent les compagnons de souffrance deviennent soit très solidaires ou alors des adversaires acharnés. C'est ce qui est le cas ici. Or c'est vrai que Marc ne parle pas du changement d'un des brigands par la suite dans la journée. C'est vrai. Parce qu'il veut montrer, il veut qu'on comprenne que Jésus était la risée de tous ceux qui étaient présents. Jésus a vécu l'ignominie. Maintenant qu'on connaît ce mot, on peut l'utiliser. Il a vécu l'ignominie, il a été dégradé aux yeux de tous. Tout a été fait pour qu'il soit dans la plus grande honte possible. Il a vécu l'ignominie, il a été dégradé aux yeux de tous. Tout a été fait pour qu'il soit dans la plus grande honte possible. Et en méditant sur ce texte, c'est vrai que j'ai repensé. On allait dernièrement visiter la maison de Corrie ten Boom à Harlem, j'ai relu un peu des livres de sa part et ça m'a rappelé un passage d'un de ses livres où elle explique qu'elle était là avec sa sœur dans le camp de concentration. Elle voyait que toutes les prisonnières étaient totalement dévêtues et rien que la pensée de cette honte l'oppressait. Et il en était de même pour sa sœur Betsy. Elles n'ont pas eu le choix. Elles ont vécu le déshonneur public. Elles ont subi l'infâme exposition. Et c'est là qu'elles se sont souvenues de ce que Christ a subi. Il a vécu l'ignominie, il a été dégradé aux yeux de tous, il a aussi été exposé nu et sans défense. Et c'est ce qui a permis à Cory et à sa sœur de tenir dans cette situation-là. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver dans notre pèlerinage terrestre. Sûrement que nous n'aurons pas à vivre ce que les Ten Boom ont vécu. Je ne le souhaite à personne. Mais dans une moindre mesure, nous aurons régulièrement des moments où notre appartenance à Christ pourra nous faire subir l'ignominie. Allons-nous fuir ce déshonneur fait à notre personne et déshonorer notre roi? Ou est-ce que nous nous préparons à honorer notre Seigneur, étant prêts à subir l'ignominie comme lui l'a subi? En fait, Pierre nous y encourage. Si on lit le texte dans 1 Pierre 2, il nous y encourage. Il dit « C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous, et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. » Et Jésus est un puissant encouragement lors de moments difficiles de souffrance. Et s'il est un encouragement dans les moments difficiles d'ignominie, il y a encore une nouvelle plus extraordinaire que j'aimerais voir avec vous dans le dernier point, justement. Le résultat des souffrances de Jésus. Si Jésus a été rejeté et moqué par tous, il l'a vécu afin que nous en soyons délivrés. La honte, la peine, le déshonneur que le monde lui fait subir est passager pour celui qui place sa confiance en Christ. Mais la honte, l'ignominie que porteront ceux qui doivent payer pour leur péché sera éternelle. Ceux qui devront payer pour leur péché, ceux pour qui Christ n'a pas payé, porteront et devront leur péché et leur ignominie sera éternelle. Celui qui place sa foi en Christ est délivré de la honte éternelle. Jésus l'a vécu pour lui. Tout ce que le Christ a souffert, nous ne le vivrons plus jamais dans son royaume dont il est la porte et le chemin. Plus jamais. Il a souffert cela pour que nous ne le vivions plus jamais dans son royaume. Celui qui ne vit pas le déshonneur et l'ignominie, simplement parce que le monde actuel le glorifie, hein, glorifie celui qui a de l'argent, celui qui fait ce qu'il veut, qui même se moque de la Bible ou des chrétiens, ou même de Jésus qui s'est fait crucifier, hein, et même qui amène des pensées anti-bibliques, de mort, de désidentification des personnes. Pour l'instant, c'est vrai, il n'y a pas d'ignominie, semble-t-il. Mais sans repentance, sans reconnaître l'immense erreur de penser que l'on peut vivre sans Dieu, ne pas se repentir et croire signifie que Jésus n'a pas porté son ignominie à venir. Pour l'éternité, il vivra dans le déshonneur d'avoir offensé Dieu. Une peine sans fin qui sera à la hauteur de celui qu'il a offensé. Il subira le jugement de vivre sans Dieu comme il l'a toujours voulu. Mais alors, sans la grâce commune, sans la bonté, sans les bienfaits, que pour l'instant, Dieu accorde même à ceux qui sont contre lui. Le jugement, en fait, c'est vivre sous la colère de Dieu sans aucune manifestation de son amour, de sa bienveillance, de sa miséricorde et de sa patience. C'est en fait ne plus rien avoir de bon et vivre dans un mal absolu sans pouvoir s'en échapper par une mort constamment souhaitée mais qui n'arrêtera plus jamais la souffrance dont la honte éternelle. Mais Jésus a pris l'ignominie, la honte, la peine éternelle de ceux qui croient en lui. Il a pris sur lui le poids éternel de la honte et lui seul, Dieu homme, pouvait assumer cela afin que nous soyons sauvés. Donc celui qui est en Christ non seulement reçoit les forces pour faire face à l'ignominie passagère dans son pèlerinage dans la chair, mais il est aussi délivré de l'ignominie éternelle. Celui qui est en Christ non seulement reçoit les forces pour faire face à l'ignominie passagère dans son pèlerinage dans la chair, il est aussi délivré de l'ignominie éternelle. Alors, la crucifixion et tout ce que Jésus a subi, est-ce une bonne nouvelle ? Mais oui, c'est une bonne nouvelle pour nous. Cela signifie qu'il a pris sur lui ce que j'aurais dû subir éternellement. La honte, la souffrance, qui est un juste jugement de mes fautes. C'est par ces meurtrissures que nous sommes délivrés. C'est par la honte qu'il a subie qu'on peut dire que nous recevons l'honneur. Jésus, en plus, est un puissant encouragement dans les situations où nous vivons la souffrance et le déshonneur ici-bas, car il nous comprend parfaitement. Et nous sommes encouragés car nous savons que pour celui qui est en Christ, toutes les souffrances, qu'elles soient physiques ou mentales, prendront fin un jour. Pour celui qui est en Christ, les souffrances finiront un jour, c'est sûr. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui refusent de se repentir de leurs péchés. Donc ma question, dernière question, la croix est-elle une bonne nouvelle pour toi ? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, face à ce texte, nos pensées et nos émotions s'entrechoquent. En même temps, nous sommes heureux de ce que tu as fait pour nous délivrer. En même temps, nous sommes atterrés de ce que tu as dû vivre à cause de nous. Et en même temps, nous pouvons être affolés pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu connais tous nos sentiments, Seigneur. Et nous voulons te prier de nous donner cette grâce, de comprendre que la croix est une bonne nouvelle pour nous et pour ceux qui sont autour de nous. Nous désirons, Seigneur, qu'elle le soit pour tous ceux qui sont autour de nous. Et j'aimerais te prier déjà, Seigneur, que nous puissions le saisir chacun ici. Que nous puissions comprendre que Christ, il a subi cela. C'est pour que nous en soyons délivrés. Donne-nous un cœur repentant, un cœur qui reconnaît que nous ne pouvons pas nous-mêmes payer tout cela, mais que Christ l'a fait, que Christ a pris l'ignominie face à tous ceux qui étaient autour de lui, que nous méritions. Lui l'a vécu de manière injuste. Face à sa vie qui était parfaite. Mais il a pris le péché sur lui afin de payer pour que nous puissions être libérés. Et j'aimerais vraiment, Seigneur, te prier que, malgré ces sentiments qui nous touchent, qui sont profonds, qui sont difficiles, c'est vrai, face à la croix, les sentiments de reconnaissance et de joie puissent en jaillir. Et que nous puissions, Seigneur, tourner nos regards vers toi, même parfois les yeux pleins de larmes en te disant « Seigneur, merci ». Nous n'avons pas de mots assez grands pour exprimer notre gratitude, pour exprimer une reconnaissance qui comprend petit à petit tout ce que nous méritons et que tu as pris pour nous. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous le verrons par la suite encore. Non seulement tu as pris sur toi ce que nous méritions dans le jugement et la colère de Dieu, mais tu nous donnes ton amour, ta grâce et un héritage extrêmement riche. Sois loué, sois béni, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réforme baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.